des troupes à des raisons d'être au plus bas. Mais voilà, je suis tombée sur un recueil de Pablo Neruda qui s'appelle La Centaine d'amour. Et je voulais vous lire un bout d'un poème qui est magnifique. Oui, j'aime ce morceau de terre que tu es, moi qui, parmi toutes les prairies planétaires, ne possède pas d'autre étoile. L'univers, c'est toi qui le répètes et qui le multiplie. Je parcours de baiser la forme de ton feu, ma petite planète, géographie, colombe. Voilà, je trouve ces vers magnifiques et je trouve qu'on en a bien besoin par les temps qui courent. C'était Blandine de Meudon.
Quelque part en Pennsylvanie, Anne Mérac travaille comme assistante du soleil. Du plus loin qu'elle se souvienne, elle a toujours occupé ce poste. Tous les matins, Anne lève le bras et pousse le soleil pour qu'il surgisse dans le ciel. Et tous les soirs, elle baisse les bras pour le coucher à l'horizon. Elle était toute petite lorsqu'elle s'est attelée à cette tâche, et elle n'y a jamais failli. Il y a un demi-siècle, on l'a déclarée folle. Depuis, Anne est passée par plusieurs asiles. Elle a été traitée par de nombreux psychiatres et a avalé d'énormes quantités de pilules. Ils n'ont jamais pu la guérir. Encore heureux. Voilà, c'est pour faire suite à l'émission d'hier avec l'équipe du Monde Diplo. C'est une petite nouvelle d'Eduardo Galeano qui se trouve page 23. Et je remercierai jamais assez le Monde Diplo de m'avoir fait découvrir Eduardo Galeano parce que c'est devenu maintenant mon écrivain favori. Et en plus, cerise sur le gâteau, il m'a été possible de le rencontrer quand le Monde Diplo a fêté ses 50 ans au Palais des Sports et c'était une journée complètement inoubliable. Merci encore, Jean-Claude de Seine-et-Marne.
Le goupillon. À l'enterrement de Léon, le curé, sacrément pompette, laissa tomber son goupillon dans le corsage de Jeannette. « Ma fille, pouvez-vous me le rendre? Je dois achever mon office. Mon père, hâtez-vous de le prendre? Je sens votre instrument qui glisse. » Pour ne pas choquer la famille, en pleurs du malheureux défunt, fermant un œil, l'autre à demi, le prêtre introduisit sa main. Or, le saint objet lubrifié par une poitrine opulente, sans attendre d'être sauvé, avait entamé la descente. Son bras n'étant pas assez long, l'homme d'église supplia son ouaille « Rendez-moi ce putain de goupillon, je vais rater mes funérailles. »« Comment voulez-vous, mon père, enfin, que je le restitue? J'ai votre outil dans le derrière, j'ai le Saint-Esprit dans le... Puisque c'est le choix du Seigneur, pour nos deux disparus, prions, et que leur dernière demeure ne soit ni cage ni prison. Quant à vous, fit le brave curé, suivant le protocole du deuil, pour le bénir, vous le devez, asseyez-vous sur le cercueil. C'était Paul-Émile, putain, je sais plus comment je m'appelle. Ouais. C'était Paul-Émile Grandcon, en Bretagne, salut.
Puisque l'aube grandit, puisque voici l'aurore, puisque après m'avoir fui longtemps, l'espoir veut bien revoler devers moi qui l'appelle et l'implore, puisque tout ce bonheur veut bien être le mien. Son effet à présent des funestes pensées, son effet des mauvais rêves, a son effet surtout de l'ironie et des lèvres pincées, et des mots où l'esprit sans l'âme triomphait. Arrière aussi les poings crispés et la colère à propos des méchants et des sots rencontrés. Arrière la rancune abominable. Arrière l'oubli qu'on cherche en des breuvages exécrés. Car je veux... Maintenant qu'un être de lumière a dans ma nuit profonde émis cette clarté, d'une amour à la fois immortelle et première, de par la grâce, le sourire et la bonté, je veux, guidé par vous, beaux yeux aux flammes douces, par toi conduit aux mains où tremblera ma main, marcher droit, que ce soit par des chemins de mousse ou que de rocs et cailloux encombrent le chemin. Verlaine, la bonne chanson.
Que de la poésie aujourd'hui dans le répondeur de la base, si j'y suis, c'est comme ça, mais il y a beaucoup plus de poésie dans le répondeur que là où je me trouve à Liège, et qu'est-ce que je vois à Liège au-dessus de moi dans le ciel? Un hélicoptère à basse altitude qui survole la cathédrale, qui survole la place Saint-Lambert, où, selon les rumeurs qui me parviennent, un homme aurait tiré dans la foule, aurait balancé des grenades, peut-être que c'était deux hommes, l'un des deux aurait été abattu, selon d'autres versions, il se serait suicidé, selon encore d'autres versions, il y a eu une tentative de faire évader un détenu du palais de justice de Liège. Voilà, alors c'est très très confus, mais il y a une très grande peur ici où je me trouve. Je me trouve avec des conférences et des débats sur la dette publique avec le CADTM, le Comité pour l'abolition de la dette du tiers-monde. C'est une association qui lutte depuis longtemps et qui aujourd'hui lutte pas seulement contre la dette du tiers-monde, mais contre la dette publique, qui est le grand sujet qui nous hante désormais en Europe. Pendant ce temps-là, là-bas, si j'y suis aujourd'hui, vous propose une nouvelle diffusion d'un des grands classiques de là-bas, si j'y suis, La première fois la mort. La première fois la mort, c'était un reportage documentaire de Sophie Le Chevalier qu'elle nous avait donné en 1998. Et c'est un hommage que nous lui rendons parce qu'il y a quelques jours, nous avons appris la mort de Sophie Le Chevalier. Elle était jeune encore et c'est une femme qu'on aimait. C'était quelqu'un qui nous avait beaucoup donné, qui avait beaucoup apporté à la base où j'y suis. C'était une femme hors série. On a été très touchés par sa disparition et elle était devenue une très bonne documentariste. Avec son compagnon Thierry Deville, elle est l'auteur d'un film sur Stéphane Hessel, un portrait de Stéphane Hessel qui s'appelle « Il faut imaginer Sisyphe heureux ». Je vous conseille de le voir en pensant à elle. Voilà, aujourd'hui donc la première fois la mort, en hommage donc à Sophie. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, là-bas si j'y suis, et bonjour les Dijonnais du Repère. Le Repère se réunira ce soir à 20h au Vieux Léon, rue Jeannin. Il y sera question de ce qu'on fait pour ne pas se laisser dévorer. À ce soir, j'espère. Au revoir.
Salut Daniel et salut à tous les AMG. Alors aujourd'hui, le premier train privé, Tello, Veolia, a quitté Paris pour Venise au même moment où on changeait tous les horaires de train de la SNCF. Ce n'est pas pour des travaux qu'aujourd'hui la SNCF change ses horaires, c'est pour l'ouverture à la concurrence. Le trafic est ouvert à tous les privés. Voilà, notre service public part à la poubelle. À court terme, nous aurons des augmentations de billets de train. Nous avons déjà des gares qui ne sont plus desservies par les trains. Et nous allons avoir un service public complètement dégradé, vendu au service privé. Voilà, c'est une réalité. Aujourd'hui, on vend la France, on la vend. Et nous, citoyens français, on ne fait rien. Il faut qu'on se réveille. Réveillons-nous.
Élection piège à con. Certains votent, d'autres pas. Dans l'urne, un bulletin blanc. Ou alors la pêche à la ligne. Ce peut être aussi la conviction d'un devoir citoyen. Nous essaierons d'y voir plus clair, d'avancer un peu à travers nos questionnements, incompréhensions, convictions crânement affirmées, doutes à peine exprimés. Au Café Repère de là-bas si j'y suis, au Baroque Café, 5 boulevard Trudaine à Clermont-Ferrand, mercredi 14 décembre à 18h30. À vous y voir les AMG.
Le mardi 13 décembre à 19h30 à la médiathèque centrale de Reims, médiathèque Falala, nous diffusons le film Grand Puits et Petite Victoire, entrée libre, un débat ensuite. Nous vous attendons, venez nombreux, à bientôt.
Bonjour, Erwan de Toulouse. J'écoute tranquillement les informations et j'entendais donc les gens qui étaient en train de s'affliger sur le prix des huîtres qui augmentait et que les pauvres petites huîtres étaient décimées par un méchant virus. Il ne faudrait pas oublier non plus que ces petites huîtres ont vu leur croissance augmenter plus rapidement et leur maturité atteindre plus rapidement grâce à de gentilles petites sélections génétiques, loin des OGM, mais juste des croisements génétiques qui font qu'une huître devient adulte en 2 ans au lieu de 3. Et malheureusement, elle est beaucoup plus sujette aux petits changements climatiques et autres petites bébêtes qui se baladent dans le bassin d'Arcachon ou ailleurs. Donc, amis des huîtres, mangez des huîtres, mais sélectionnez vos petits producteurs de manière à avoir des huîtres qui des vraies huîtres et pas des ersatz de la cool consommation. C'était Erwan de Toulouse.
La mort n'existe pas. Comme le jour n'existe pas, comme la nuit n'existe pas. Le fini vers l'infini, disent les Bambara. Je suis le pharaon, un animal qui vole pour surveiller le cœur des enfants et leur dire, rien n'est éternel, mais rien n'est présent.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Sophie le Chevalier. Là-bas, si j'y suis.
Flight number 2, arriving from New York.
J'ai perdu mon beau-père, disait ma mère, aux gens, au marché, à l'église, à la caisse de compensation. J'ai perdu mon beau-père. Son beau-père était mon grand-père. Perdu, il était. Pas étonnant. Maman était tête en l'air. Les clés, les porte-monnaies, les fers à repasser. Elle perdait toujours tout. Et le grand-père, y tout. C'est après qu'on a eu des nouvelles. Le grand-père était monté au ciel. Pas étonnant non plus. En levant la tête, en regardant les nuages, on voyait papy assis, tenant la main de mamie avec le bon Dieu, très gentil, et la queue de Mickey qui bougeait à cause du bonheur que ça vous fait d'être enfin réunis, tous ensemble, pour l'éternité. Quand j'étais petit, c'était vachement chouette la mort, très sympa. Bon, d'accord, c'était un peu dégueulasse quand il avait fallu embrasser papy tout froid et tout décédé sur la table de la salle à manger. Arlette avait vomi son 4 heures, mais bon, c'est les filles. Non mais, c'était sympa. C'est après que j'ai eu peur. Je sais plus quand, ni pourquoi, ni comment. Cette peur, pourquoi? Vous savez ce que disent les Bambara du Mali? La peur de la mort ne fait pas mourir la mort. Faire mourir la mort. L'homme, je ne vous apprendrai rien, n'a pas d'autre ambition que celle-ci. Niquer la mort. Nique ta mort. Voilà le grand secret. Le reste, c'est l'amour. Mais aujourd'hui, c'est la mort. Une balade tabou dans la basse si j'y suis. Et je vous en voudrais pas si vous tournez le bouton, si vous revenez tout à l'heure. Ça peut vous secouer. Vous vous souvenez, votre premier baiser au fond du cinéma, votre premier amour à l'hôtel de la gare, votre première moto sous la pluie, dans la forêt, les premières fois. Pourquoi les premières fois? Parce que nous sommes faits d'un tas de premières fois et aussi de dernières fois. Nous sommes faits de plus jamais et de pour toujours. Et juste entre les deux, c'est maintenant, c'est le présent, un fil pas épais, le présent par ces temps qui courent. Hé, vous vous souvenez la première fois que vous avez vu un mort? Ça, c'est pas des questions à poser. C'est une question bateau qui risque de vous emmener. C'est des questions, on se voit dedans, des questions miroir. Et dans le miroir, soudain, plus de buée. Je vois ma propre fin dans la fin du prochain. Miroir, mouroir, cette planète. La première fois que vous avez vu un mort, vous vous en souvenez? Drôle de question. Ça renvoie à toutes les autres. Mireille, sur le perron, séparation. Roger au stalag, dans l'ambulance au bout de la piste. Ça renvoie à toutes les pertes, tous les perdus. Ça renvoie à grand-père, à Mickey, au paradis, à la révolution, au goût du sable, au bout des nichons de Jacqueline, derrière la dune des illusions. Drôle de question. Laissons ça aux spécialistes, philosophes, scientifiques, curé, croque-mort, pour nous c'est indicible. Obscène, question, c'est vrai. On a quand même essayé. C'est un essai périlleux. Mon verre s'est brisé comme un éclat de rire, disait Apollinaire. Peut-on trouver d'autres mots pour dire l'indicible, pour jamais et puis toujours?
j'adore. Elle suit mon corbillard, je la sens près de moi, son rimel foulquant. Oh, qu'est-ce que je suis content, tu es venu à mon enterrement. Toi qui ne venais jamais à mes rendez-vous de mon vivant. Tu ne te promenais jamais en auto seul avec moi. Aujourd'hui c'est fait, nous voilà réunis dans le même convoi. Tu m'as dit non toute ma vie, le jour de ma mort tu me dis oui. L'amour auquel je ne croyais pas est né le jour de mon trépas. Je la sens près de moi. Si j'avais su, je serais mort avant. Je serais mort avant. Oh oui, bien avant.
Je vais vous poser une question un peu surprenante.
Oui.
Une question qu'on pose pas en général avec un micro. D'accord ?
Oui.
La première fois que vous avez vu un mort.
Un homme ?
Un mort.
Un mot ?
Un mort.
Un mort, ouais.
C'était lors d'un stage. À la base, je suis aide-soignante. Donc lors d'un stage, durant mes études, d'aide-soignante. Vous pouvez arrêter, s'il vous plaît.
Là, en attendant ta question, la manière dont tu me l'as dit, enfin, la manière dont tu l'as formulé, j'ai pensé que tu allais me demander la première fois où j'avais fait l'amour ou quoi que ce soit, ou un truc.
À cause de la première fois.
À cause de la première fois. Tu m'as dit, est-ce que tu peux raconter la première fois où t'as vu un mort ? Moi, dans ma tête, ça a fait tout de suite la première fois où j'ai fait l'amour.
La modernité refuse la mort. C'est mon copain qui m'a dit ça. Lorenzo, il m'a dit ça. La modernité refuse la mort. Et c'est vrai. Et on a viré le petit corbillard, Brassens, le petit corbillard, d'antan où sont-ils passés. Mais on a viré aussi les petits corbillards intérieurs. Tout. On a viré les cris, les larmes, les rituels, pour exorciser, pour apprivoiser. On a tout viré. Tout, tout, tout. Plus d'occasion de faire avec, pour tâcher de faire d'un mort un ancêtre. On a perdu ça, on a perdu le fil de ça. C'est une grande malédiction qui nous arrive à nous autres occidentaux. On le sait, on le sait. Mais qu'est-ce que ça fait ? Et comment le dit-on ? Comment dit-on cette scène, ce moment où on a vu, on voit la mort pour la première fois ? Un mort pour la première fois, précisément. Vous avez déjà vu cette scène. Et vous êtes en train de la revoir en écoutant cette question posée par Sophie Le Chevalier. C'est la seule question qui sera posée à des gens que nous avons rencontrés, différents, divers, et qui ont accepté de répondre. Pour une fois, c'est pas les spécialistes, c'est pas les psychologues, c'est pas les philosophes, les prêtres, ou les chirurgiens, les médecins, les spécialistes qui répondent. Ce sont des gens comme cette dame dans un square où on entend des oiseaux.
La première fois que vous avez vu un mort.
Ah, la trouille de ma vie.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ben, ce qui s'est passé, c'est que, bon, ça revient loin. Parce que j'ai vu ma grand-mère morte dans son lit. Et je ne m'imaginais pas du tout comment c'était un mort. Et ça, j'ai eu très, très, très peur. Ça m'est resté une impression. La trouille que j'ai vraiment toujours, c'est qu'il se lève. Alors ça, j'ai vraiment peur. Et puis, bon, ben, j'arrive pas à m'enlever cette idée-là, j'arrive pas à approcher un mort, j'arrive pas à l'embrasser. Bon, c'était ma propre grand-mère, j'ai été élevée par elle, mais il n'y avait rien à faire, je pouvais pas. Et j'ai réagi pareil avec Carlo, avec mon mari. Exactement pareil, quand je l'ai vu mort, ben j'ai pas pu le serrer dans mes bras, j'ai pas pu le prendre, peur, c'est tout. Et après, bon, ben forcément, comme ils l'ont mis sur un canapé, parce que je l'avais trouvé assis sur trois marches, On l'a mis sur le canapé, le docteur est arrivé, il m'a demandé pas mal de questions et tout. Et puis bon, il m'a simplement demandé de lui serrer la main, quoi. J'étais incapable. Incapable, je peux pas. Je suis frigorifiée, je ne peux pas voir un mort. Même, c'est le cas de le dire, à la télévision qu'on voit des morts et tout, je n'y arrive pas. Je tourne la tête, j'ai peur qu'il se lève. Pourquoi, je ne sais pas. J'étais toute seule avec lui. Il était enfermé dans le cercueil. J'avais peur. J'étais incapable de sortir d'une pièce ou d'aller de me mettre dehors, de me lever d'un fauteuil, de peur qu'il se lève, qu'il arrive. C'est vrai que souvent, quand je pense à lui, bon, je dis souvent, bon, s'il pouvait revenir. Mais pourquoi j'ai peur? Que j'ai peur comme ça quand je les vois, quand je vois un décès, je peux pas regarder, je suis désolée. J'ai toujours cette impression qu'ils vont se lever.
J'étais tout petit, hein. C'était à la Libération de Paris. Et ça se passait place de la République, et c'était des cadavres de soldats allemands qui étaient allongés dans les jardins, vous savez, qui sont au milieu, là. Là, je savais ce que c'était un mort. J'allais les voir, on m'a dit qu'il fallait les voir. Et c'était des Allemands, alors c'était une mort particulière. Donc j'étais enfant, et on m'a présenté la chose comme s'il s'agissait d'être... Je veux pas dire d'être venu d'ailleurs, c'est faux, pas ça. Mais comme si la mort n'était pas une condition, mais que c'était un... des êtres particuliers. Pas, comment ça, comment... Ah, j'arrive pas à trouver le mot, vous voyez. C'est quelque chose qui ne pouvait pas nous arriver. Les morts, c'était forcément quelque chose d'étranger. Voilà. C'est toujours épouvantable. C'est ça qui est embêtant. On ne peut pas en parler, quoi. On ne peut pas... Moi-même, voyez-vous, j'ai du mal à parler de ça, parce que j'ai l'impression... Si je parle trop, j'ai l'impression de savoir. Alors, j'en sais rien. Je suis comme tout le monde. Je suis marqué par l'éducation, par les blocages, vous savez. À vrai dire, je n'y ai jamais réfléchi à ma propre découverte, telle que vous la posez personnellement. En fait, je me suis contenté de lire la mort des autres. Mais quand il s'agit de son sentiment vis-à-vis de la chose, en fait, on ne sait pas répondre. On ne sait pas répondre pour les ans que vous savez. C'est-à-dire que... Et même en 45, place de la République, puisque je vous ai cité cette histoire... J'avais vaguement conscience que cela pouvait m'arriver. Mais encore une fois, là aussi, c'était des étrangers. C'est toujours des étrangers, la mort. Vous voulez un café?
Je vous remercie, mais je vais m'en prendre.
C'est toujours des étrangers, la mort. C'est toujours des étrangers, la mort. Voilà ce qui arrive. On trouve des phrases comme ça, en cherchant un peu, dans un café... En attendant de prendre un café, en discutant. Peut-être qu'on a tort de poser cette question. Ah ouais? Il y a des gens qui n'en parlent pas. On dit que les tziganes ne parlent jamais de ça, ne parlent jamais de la mort. Et on a vu, nous, à Madagascar, si vous vous souvenez, les mernes de Madagascar, qui au contraire, eux, célèbrent leurs morts, retournent les morts de temps à autre, comme ça, réunissent tous les restes mortels. La mort et les hommes. Mais le moment où on la voit, on le voit, le mort, le premier qu'on voit apparaître, qu'on voit disparaître, c'est quand? Voilà Maître Jacques Cam, qui est avocat.
J'ai assisté à une exécution capitale. Et quand j'y pense, encore maintenant, je ne m'en suis pas remis physiquement. Je ne sais pas quel âge j'avais. J'avais peut-être 25 à 27 ans.
Comment vous expliquez que l'émotion soit aussi présente?
Cette émotion est présente pour des raisons qui sont liées essentiellement à l'exécution capitale telle qu'elle existait. L'intéressé ne croyait pas en Dieu. Et n'avait Dieu, pour ainsi dire, que pour moi. Comme son défenseur titulaire n'était pas là, j'étais bien obligé de prendre la relève. et j'ai assisté à l'exécution capitale au petit matin. Et les bourreaux ne se trompent pas. Ils appellent l'individu le paquet. On lui attache les mains et il est comme un paquet sur la balance. Quand j'y pense, j'en suis malade, je suis désolé de vous le dire. On peut être d'accord pour la peine de mort, mais pas être avocat dans ce cas-là. Il me regardait parce qu'il avait peur, une peur panique de cet engin dont il ne connaissait pas la douloureuse fonction. Et c'est pour ça qu'il me regardait. Il y avait une bouteille de rhum. Il y avait marqué dessus « bouteille du condamné ». Et cette bouteille était vide au quart, au trois quarts, je ne sais plus. Mais ça voulait dire combien d'exécutions elle avait faites. Par conséquent, cette bouteille, qui est dans mes souvenirs, est une chose qui ressort de l'humour noir et est un fait abominable.
Mais c'était une mort qui était cachée. Cachée au regard des autres.
C'était une mort institutionnalisée. Et c'est ça, entre autres, qui m'a rendu malade. Parce que le communiqué était très froid par rapport à l'exécution à laquelle j'avais assisté.
Il disait quoi ?
Il disait qu'un tel avait été exécuté ce matin à telle heure dans la prison de la santé. Et c'est tout. Et ce communiqué très laconique a contribué à me faire du mal parce que, par rapport à ce que j'avais vu, il était trop laconique. Mais la question se pose s'il devait dire tout ce que j'ai vu.
Et vous ne pouvez pas?
Je ne peux pas répondre à cette question.
La vie m'a doublé, c'est pas régulier pour un pauvre lézard qui vit par hasard dans la société. Mais la société, je veux pas m'en mêler, je suis un type à part, une graine d'ananas. On me dit que j'ai poussé en dessous d'un gibet où mon grand-papa balançait déjà, avec un collier tressé de chanvre, il était un foutu foulard pour graine d'ananas. Il y avait des copains qui mangeaient mon pain, car le pain c'est fait pour être partagé dans notre société. Oh, c'est pas moi qui le dis, non, c'est Jésus-Christ, un foutu bavard à gueule d'ananas. Si j'avais des sous, on me demanderait où les as-tu gagnés sans avoir trimé pour la société. Mais comme j'en ai pas, faut lui dire pourquoi c'est jamais peinard, la graine d'ananas. On me dit que c'est fini, je vous le dis comme on le dit, et qu'on me pendra au nom de la loi et de la société. La belle société qui se met à se mêler de mettre au rancard la graine d'ananas. Potent se double, l'oiseau fait son nid, messieurs les corbeaux passeront ma peau comme elle est à mi. Mais auparavant, j'aurai comme le vent semé quelque part ma graine d'ananas.
Alors, est-ce que cette peur de la mort, du mort, de la morte, a une histoire ? A-t-on moins peur ailleurs, comme j'ai l'air de le suggérer, en évoquant les pays, les sociétés qu'on a rencontrées, et pour lesquelles on a un faible, c'est vrai, vis-à-vis, notamment dans leur façon de ritualiser la mort, d'affronter la mort, de négocier avec l'énigme de la mort, d'inventer des paradis, des suites, des promesses, des renouvellements, des réincarnations, etc. Est-ce qu'au fond, les mernes, par exemple, de Madagascar, que j'évoquais tout à l'heure, sont moins choquées, moins ébranlées, moins anéanties par cette scène primordiale, cette première vision de la mort? J'en suis pas sûr, je sais pas si vous avez la réponse, et je sais pas s'il y a des réponses à tout ça, mais il y a des hommes, des femmes qui ont accepté de mettre des mots sur cette image que la question évoque immédiatement. Souvenez-vous du moment où vous avez vu pour la première fois un mort.
Oui, c'était dans les hôpitaux de Paris, je travaillais dans les hôpitaux de Paris, et puis évidemment, j'étais une petite débutante, et on m'a dit, tu vas aller laver cette personne. On m'obligeait à le nettoyer, une chose que je n'ai pas pu faire. La mort, c'est quelque chose où il ne peut rien vous arriver, mais ça vous fait très peur. Lorsque j'ai pris le gant et que j'ai voulu toucher à la personne pour la laver, j'ai crié, puis j'ai voulu m'en aller. Mais moi, bon, il y avait les chefs infirmières qui étaient là avec beaucoup d'autorité. Ils m'ont dit, tu restes, t'en verras d'autres, bon, etc., etc. Bon, on ne m'a pas obligée à continuer avec le gant car j'étais effondrée par ce truc-là. J'étais effrayée. Puis, mais je suis restée quand même, il a bien fallu. Hein. On m'a dit, t'as vu, pour la prochaine fois, tu vois, tu fais comme si qu'il était tout chaud, tu t'inquiètes pas. Donc, voilà. Mais il n'y a pas eu une deuxième fois. Hein. Non. Même que ce n'est pas les vôtres, ça fait quelque chose. Et puis, on ne vous prépare pas. Hein. On aurait pu dire, bon, mademoiselle, à cette époque-là, me dire, mademoiselle, aujourd'hui, vous allez laver quelqu'un d'exceptionnel, c'est quelqu'un qui est au-delà, mais on va lui faire une toilette. Il y avait une façon de le dire. On ne met pas une jeune fille comme ça. Je sais pas, moi. Bien sûr qu'il n'allait pas me faire de mal. Mais on est humain, et puis c'est froid, et puis c'est choquant, et puis... voilà. C'est drôle que la mort, ça fait toujours peur. On n'y croit pas, on croit que les gens sont éternels. Ah oui, c'est comme ça.
Et vous, madame?
Rien. Non, moi j'ai perdu mon mari, alors non. J'ai rien à dire. Il y a à peu près un an que madame, elle a perdu son mari, donc elle ne veut pas en parler.
Perdu.
La mort, c'est vrai, on a toujours peur d'en parler. Et vous, aujourd'hui, vous demandez une question là-dessus. C'est vrai que ça fait un détour dans la tête et on n'est pas prête à vous répondre. On répond ce qu'on sent, ce qu'on a vu, ce qu'on ressent. Voilà, c'est tout simple, c'est beau, c'est triste, c'est tout à la fois. Et que mon mari m'entende.
Première fois où j'ai vu un mort, c'était à l'Institut médico-légal dans le cadre de mes études. Dans un amphithéâtre, il était recouvert d'un drap et l'autopsie a eu lieu devant les étudiants qui, un par un, avec leur mouchoir sur la bouche, sont sortis pour être malades. Moi, ça a été à peu près, malgré l'odeur, jusqu'au moment où ils ont ouvert le crâne. Avec une espèce de scie, ils ont fait un cercle autour du crâne et au moment où ils ont ouvert le crâne, comme on ouvre un œuf à la coque, là, je suis sortie. C'est la première fois que j'ai vu un mort.
Et c'était plus possible de rester?
Je suis rentrée après. J'ai assisté à la fin de la dissection. Mais je veux dire que le moment où le crâne, la calotte du crâne a sauté, c'était insoutenable. C'était insupportable. Après, je suis rentrée. La fin de la dissection était intéressante du point de vue technique, parce que c'était un homme qui était mort tout seul chez lui Et le résultat de la dissection a été quand on a ouvert la gorge, qu'en réalité, il s'était étranglé avec un morceau de viande. Il dînait tout seul, il s'était étranglé avec un morceau de viande. Et il y a eu une analyse toxicologique. Et en réalité, il était sous médicaments, sous tranquillisant. Je crois que c'était du tranxène ou quelque chose comme ça. Et il a bu du vin en même temps que son repas. Or, ce qu'ont expliqué les médecins, c'est que le mouvement de la déglutition est une suite de mouvements extrêmement coordonnés. Qu'il suffit qu'il y ait un seul des mouvements qui ne se coordonne pas avec le suivant pour qu'on s'étouffe. Et ce qui est idiot, c'est qu'il était seul chez lui, parce que n'importe qui aurait été là, il l'aurait attrapé, il y a une manœuvre à faire, on attrape la personne par derrière, et on remonte le thorax très violemment, il aurait expulsé le morceau de viande. Donc la fin était purement technique et c'est devenu supportable. Mais le moment qui était insupportable, c'est le moment où il y avait un espèce de silence, et cette scie qui était comme une fraise de dentiste, et puis le...
La première fois que j'ai vu un mort, j'avais 5 ans, c'était mon grand-père. Et donc, je me suis retrouvée dans une pièce et je me souviens de ce lit-là, avec, où il y avait simplement un drap. On voyait le visage de mon grand-père. Et ce qui me frappait, c'est que je l'appelais, il ne me répondait pas. Et j'en étais très étonnée, je ne comprenais pas, évidemment, mais... C'était surtout de l'étonnement. Je l'appelais, il ne me reconnaissait pas, il m'entendait. Je sais pas. Dans ma tête, c'était pas il ne m'entendait pas, mais il ne me répondait pas. Et ça, c'était très troublant. Et je me souviens, il y avait la silhouette noire de ma mère à côté. Je lui ai demandé pourquoi il ne me répondait pas. Je me souviens pas de la réponse, mais je me souviens de lui avoir posé la question parce que c'était un étonnement. Quelque chose d'incompréhensible, quoi, d'inimaginable. Et c'est curieux, sur le coup, il n'y avait pas de sentiment, j'étais pas triste, j'étais pas... Je n'avais pas de regret, je ne sentais pas l'absence, c'était pas ça l'idée, c'était pas un regret de ce qui avait pu se passer ou de ce qui aurait pu se passer plus tard. Je pense que c'était l'expérience brute, je parle et on ne me répond pas. Il ne me répond pas, ça c'était...
Qu'est-ce que vous lui demandiez ?
Je l'appelais... Je lui disais, Pépère, dis-moi quelque chose, réponds-moi. Et c'était le silence. Mais ça n'allait pas au-delà. Cette rupture, cette coupure de... C'était... Je peux pas dire d'autres mots, incompréhensible.
Esquiver l'incompréhensible, affronter l'incompréhensible, depuis que l'homme est homme, les deux attitudes coexistent parfois d'une seconde à l'autre. Il y a le principe, évidemment, d'affronter. On est convaincu qu'il faut affronter. Mais le fait-on vraiment ? Et en est-on vraiment convaincu ? Face à l'énigme, face au tabou de la mort, au moins dans nos sociétés, et à plus forte raison, au moment où la mort surgit, apparaît, que fait-on ? Que pense-t-on ? Qu'éprouve-t-on ? Et l'image qui se forme à ce moment-là, comment la trimballe-t-on à travers le temps, à travers nous-mêmes, à travers nos mémoires, nos rêves, nos attitudes, nos réactions à une chose ou à une autre. C'est évidemment une question terrible de dire à quelqu'un, est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu un mort ? C'est une question qui fait qu'on va se masquer pour répondre, et donc, bien sûr, si on se masque, on se démasque, bien sûr. C'est la fonction même du masque et des mots. Il y a, entre mots et mort, il y a que ce petit air qui est là, un petit air qu'on retrouve entre les mots.
Moi, j'étais personnellement des gens. C'est pour ça que j'ai tué des quoi ?
Vous avez été décoré parce que vous aviez tué des gens. Alors c'était dans quelles circonstances ?
Dans les combats. OK ? Et je suis, par contre, j'ai oublié de vous dire, ex-commando OS. Vous connaissez l'OS?
Oui, bien sûr. Vous étiez para.
Et exact. Troisième RPM.
Est-ce que vous vous souvenez des gens, de l'image des gens que vous avez tués?
Je me souviens des gens que j'avais tués, mais je n'ai rien à foutre. OK? C'est un légitime défense, non? On n'est pas des assassins.
Vous en avez tué beaucoup?
J'en ai tué exactement 14 personnes, personnellement. Je crois qu'on était drogués.
Donc en fait, on avait besoin de droguer les soldats pour qu'ils réussissent à tuer les autres.
Alors, c'est exact. Ouais. Ah, c'est ça.
C'est le mur. Ouais. C'est pas aussi évident que ça.
Non. Non, mais ça me fait pleurer, moi, quand je pense à tout ce problème. Putain de merde. Mais si ça a à refaire, je le ferai volontiers, mais c'est qu'il y a... Vous comprenez, non?
Oui, mais aujourd'hui, en reparlant, ça vous fait pleurer.
Ouais. Si c'est à refaire, je le ferai.
Malgré tout.
Affirmatif.
Vous vous appelez comment?
Dilem Ariski.
Monsieur Dilem.
Ariski.
Je vous remercie. Proud of the trail, the land. Foundry. La la la, la la la, la la la, la la la. Je suis mort, qui dit mieux? Bah mon pauvre vieux, voilà autre chose. Je suis mort, qui dit mieux? Mort le venin, coupé la rose. J'ai perdu mon âme en chemin. Qui la retrouve, cela m'est aux choses. J'ai perdu mon âme en chemin. Qui la retrouve, la jette au chien. Cela dit, dans ce putain de cimetière, j'ai perdu mon humeur aux mots roses. Jamais plus personne ne vient m'emmerder quand je me repose. À faire l'amour avec la terre, j'ai enfanté des petits vers blancs qui me nettoient, qui me digèrent, qui font leur nid au creux de mes dents. La 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 la. Ceux qui ont jamais croqué de la veuve, les bordées de nouilles, les tirs à blanc, qu'ont pas gagné une mort toute neuve à la tombola des mutants, peuvent pas savoir ce qui gigote dans les trous du défunt cerveau. Quand sa moitié dépose une botte de rose sur le chardon du terreau. Quand sa moitié dépose une botte de rose sur le chardon du terreau.
Des images qu'on préfère oublier, mais est-ce qu'on a le choix d'oublier? Est-ce qu'on peut oublier? On le sait bien, la mémoire choisit ce qu'elle oublie. Alors, ce qu'on décide d'oublier, de mettre sous le tapis, de balayer sous le tapis, ça va où? Ça tombe dans quel trou, dans quelle poubelle, quel pourrissement, quelle gangrène? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui peut digérer ça? Pas facile à dire, hein? Eh oui. Et qu'est-ce qui revient, qu'est-ce qui remonte à la surface quand on pose la question que Sophie a posée? Qu'est-ce que vous voyez quand je vous demande de vous revoir, de voir la première fois, de repenser à la première fois que vous avez vu un mort? Écoutez Monsieur Barbier, qui est conducteur à la RATP.
Est-ce que vous pouvez me raconter la première fois que vous avez vu un mort?
J'ai eu un suicide il y a une quinzaine d'années. C'est un individu qui s'est jeté sous le train en étant sous tunnel, ce qui est pas toujours évident parce qu'en général, il se jette du quai. Donc là, j'ai absolument rien pu faire. Bon, j'ai fait ce qu'il y avait à faire pour arrêter le train, faire couper le courant, faire tout ce qu'il y a à faire en termes de sécurité. Et puis après, ben, je suis allé voir ce que c'était. On se demande s'il est vraiment mort. Je crois que on appelle voir s'il y a quelqu'un. Mais évidemment, en tant que mort, ils ne peuvent pas répondre. Mais je l'ai retrouvé sous la dernière voiture, coupé en deux. Et c'était propre, parce que c'est la première roue qui coûte. Une fois que la première roue est passée, le train suit.
Et comment vous vous en êtes rendu compte?
J'ai vu une ombre passer juste devant moi, avec un petit craquement et une petite secousse sur la première roue. Et comme si on cassait les reins à un lapin, quand on le coupe. Ça fait exactement ça. Et c'est impressionnant sans être impressionnant, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de choses comme ça. Ça cautérise tout de suite, hein, parce que le train, c'est quand même lourd. Moi, bon, il était proprement coupé en deux, avec des bouts de boyaux qui pendaient un peu partout. Bon, c'est pas ragoûtant, puisque de toute façon, on n'y voit pas grand-chose. Mais c'est vrai que pendant plusieurs années, je l'ai vu sauter. Je l'ai revu sauter. Et à chaque fois que je passais à cet endroit-là, je le voyais sauter. Longtemps, j'ai toujours eu l'appréhension de voir quelqu'un sous tunnel, sauter sous tunnel. Et je crois qu'on est tous pareils. Hein. À partir du moment où quelqu'un passe sous notre train, on le voit pendant très, 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 très longtemps. Pendant des années, même. On n'a pas le temps de s'en rendre compte. L'appréhension, on l'a après. Le lendemain, le surlendemain, les années qui suivent. Parce que chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais non, l'appréhension, c'est après. C'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. La preuve, quand je suis arrivé à mon terminus, j'avais faim. Donc je sais pas si c'est le fait d'avoir vu du foie et des boyaux, mais ça m'avait donné faim. Et pourtant, c'était 6 heures le matin. Ce que je trouve dommage, c'est que les gens sautent comme ça dans le métro et ils emmerdent tout le monde, quoi, en fin de compte. C'est très facile de se jeter sous le métro. Il suffit de se mettre au bord du quai puis de sauter. Alors, on en arrive toujours, est-ce que c'est facile de vivre ou est-ce que c'est facile de se suicider? Là, on sait pas. Mais de là... Non, je pense que c'est de l'égoïsme, surtout. Hein. C'est pas par rapport aux autres, c'est de l'égoïsme. Et c'est la facilité, en fin de compte. Parce que le métro, on est sûr de pas se louper. C'est très rare quand on se loupe, de surcroît, quand on descend sous tunnel. Là, c'est... Il y a aucune chance de s'en sortir.
Mais c'est des choses qui sont fréquentes pour les conducteurs de métro?
Ah oui, d'après les stats, il y en a presque un par jour, d'après les statistiques. Mais généralement, printemps, automne. Printemps, les hommes, automne, les femmes.
Pourquoi?
Allez savoir, je sais pas. C'est souvent comme ça.
Vous imaginez que la situation puisse se reproduire?
Ben, j'espère pas. Pas forcément parce qu'il va y avoir encore un mort, mais pour les désagréments que ça procure, quoi. Pour moi, pour les voyageurs ou pour les collègues, je pense qu'il faut... Faut arrêter les conneries de suicide dans le métro, quoi. On achète sa mort pour un ticket de métro. Ou une carte orange. C'est vraiment pas cher. Mourir pour 8 francs, c'est quand même pas cher. Hein.
C'était le jour de Noël. On s'attendait tous au décès de ma grand-mère. Et on était tous attablés. Je me souviendrai toujours. J'étais... assise au bout d'une table, et mon père, donc, qui allait perdre sa mère, était absolument en face de moi. Et je m'en souviens très bien, j'ai vu mon père se liquéfier. Et ma mère a dit, bon, il faut qu'on y aille tout de suite. Et j'ai dit à ma maman, bon, écoute, tu restes ici. Et Thierry et moi, donc mon frère et moi, on va accompagner papa. Et je me souviens donc de cette route jusqu'à l'hôpital. Je m'attendais à... Enfin, j'étais très angoissée à l'idée de voir ma grand-mère. Et en même temps, le premier mort de ma vie. La première vision que j'ai, c'est un... Alors c'est ma grand-mère, mais en même temps c'est un corps qui est absolument inconnu et absolument quelqu'un de totalement étranger. Je n'ai pas reconnu ma grand-mère alors que je l'avais vue 2 jours avant. C'est un corps complètement vide de toute substance. J'ai été frappée par la maigreur de cette femme qui avait énormément souffert, très, très maigre et très ridée. Elle avait un teint extrêmement gris. Je me souviens de ça. On est rentré à la maison et le lendemain, on l'avait mis dans un endroit très particulier qui est une... je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est dans un funérarium. Alors, ça ressemble à un salon où le mort est exposé et où les gens vont venir voir le mort. Moi, je trouve ça assez horrible. Et ce jour-là, il fallait faire quelque chose pour moi d'assez difficile. C'est que mon père, donc ma grand-mère était catholique. Il était allé à Lourdes quelques mois avant et il voulait lui mettre entre les mains un chapelet. Évidemment, mon père, avec sa sensibilité énorme, absolument pas eu le courage. Enfin, il est tout de suite allé vers mon frère en lui disant « Est-ce que tu auras, toi, le courage de lui mettre le chapelet entre les mains ?» Et mon frangin a eu une réaction extrêmement violente et lui a dit « Bon, écoute, moi, je peux pas faire ça. » J'ai vu mon père tellement perdu vis-à-vis de cette réponse qui était, somme toute, assez violente que j'ai dit à mon père « Bon, écoute, moi, je le ferai pour toi. » Mais alors après, j'étais hyper angoissée, quoi. L'idée de devoir faire ça, de toucher, parce que c'était tout à fait autre chose. J'avais passé le cap de voir, j'avais passé le cap de tout ça. Il fallait toucher ce mort. Et j'avais une angoisse à l'idée de toucher les mains de ma grand-mère. Je me demandais si ça allait être froid, si ça allait être dur, si ça allait être mou, si ça allait être... tu sais, puis alors s'il y a cette angoisse de se dire, je sais pas moi, les mains vont-elles se refermer sur moi? Est-ce que ça va être une sensation de crochet? Et en réalité, j'ai été très surprise, ça s'est très bien passé. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai fait ça assez naturellement, avec une impression de détachement. En fait, ça s'est passé très très vite. J'ai senti mon père hyper rassuré. J'avais l'impression de lui avoir ôté un poids énorme de la tête, de l'esprit. Mais ce jour-là, j'ai dû avoir des paroles fortes et j'ai pris la main de mon père. C'est chose que je ne faisais certainement pas à ce moment-là. C'est vrai que la mort rapproche les vivants, c'est évident. J'ai pris la main de mon père, je l'ai peut-être même pris dans mes bras, alors que c'est pas des choses qu'on fait chez nous. Et c'est vrai que c'est vachement tendre, quoi. C'est vachement bon. Sentir mon père pleurer et le prendre dans ses bras et... sentir que mon père avait cette demande de tendresse, cette demande de... sentir sa grande fille qui le soutienne, c'était un grand moment, c'était un moment dur, mais en même temps un moment très fort, un moment, oui, je devenais une grande fille et peut-être que j'étais fière de moi quelque part, fière de moi de pouvoir donner ces gestes-là à quelqu'un qui en avait besoin et quelqu'un qui signifie tellement pour moi.
C'était La première fois la mort, un reportage de Sophie Le Chevalier de 1998. Cette heure de Là-bas, si j'y suis, était dédiée à la mémoire de cette femme hors série. Vous retrouverez bien sûr toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission Là-bas, si j'y suis, sur le site la-bas.org et sur notre page Facebook. À la technique aujourd'hui, il y avait Stéphane Poitevin et Yann Bouillot, à la réalisation Bertrand Chaumeton et Franck Aderer, assistante Marina Touyez, chef du répondeur Grégory Salomonovitch. Le numéro du répondeur de Là-bas si j'y suis est le 01 56 40 37 37. Je vous redonne le numéro, notez-le bien, le 01 56 40 37 37. Les arts.
devenir...
Tendance.
Vous allez donc changer...
De mari.
Non.
De dressing.
Non. De vaisselle, les filles. Changez de vaisselle.
Ah. Les hommes de la table.
C'est comme la mode, c'est bien quand ça change.
85% des horaires de train SNCF ont changé. En effet, 5000 km de voies vont être ainsi rénovées pour vous offrir un réseau plus moderne et plus sûr. Parce que nous savons que cela entraîne des changements dans votre quotidien, aujourd'hui plus de 30 000 agents SNCF sont là pour vous aiguiller dans les gares et dans les trains. Vous pouvez vous renseigner dans votre gare et sur sncf.com où un dispositif spécial a été mis en place pour répondre à vos questions 7 jours sur 7. Nous sommes là pour vous.
SNCF.
Bel après-midi sur France Inter, il est 16h. Les informations avec Laetitia Gaillet, bonjour.
Bonjour, la situation dans la ville de Liège en Belgique est redevenue calme et est sous contrôle. Selon le procureur Daniel Reinders, l'attaque de ce midi dans le centre-ville a fait 2 morts et 64 blessés. Il ne s'agirait pas d'un acte terroriste, mais bien l'œuvre d'un tireur isolé. Il aurait lancé des engins explosifs et tiré des coups de feu dans la foule. L'abandon du nucléaire créera plus d'emplois qu'il n'en détruira en Allemagne. La réponse aujourd'hui en partie de la chancelière allemande Angela Merkel au patron d'Areva. Luc Courcel a présenté aujourd'hui son plan stratégique pour les années à venir. Il prévoit la suppression de plus d'un millier de postes en Allemagne. En France, pas de suppression de postes, mais des départs naturels, dus notamment au gel des embauches dans l'administratif. Pour limiter la hausse du nombre de demandeurs d'emploi, comme en 2009, Nicolas Sarkozy veut encourager le chômage partiel. Le chef de l'État l'a dit aujourd'hui lors d'un déplacement à Sallanches, en Haute-Savoie, lors d'une visite à l'entreprise du groupe Rossignol Dynastar, qui a en partie relocalisé en France sa production. Nicolas Sarkozy a aussi défendu le Made in France. Il souhaite soutenir les entreprises françaises et étrangères qui produisent dans l'Hexagone. Aux Échos, la période à venir va être difficile. Le patron du groupe, Francis Morel, a annoncé aujourd'hui un vaste plan d'économie de 12 à 14 millions d'euros. Une quarantaine de départs volontaires sont prévus, ainsi qu'un programme d'investissement sur 5 ans. Le directeur général du groupe Hersant Média est actuellement retenu au siège du journal L'Union à Reims. Il est retenu par des salariés de l'imprimerie Hebdoprint et de la société de presse Comareg. Les syndicats et la vingtaine de salariés présents veulent que Dominique Bernard appelle Philippe Hersant, le président de GHM. Il réclame des primes extra-légales de licenciement après la mise en liquidation d'Hebdoprint et de Comareg le 2 novembre dernier. N'en déplaise à ceux qui pensent le contraire, il ira jusqu'au bout. 2 jours après l'annonce de sa candidature à la présidentielle, Dominique de Villepin l'a dit aujourd'hui. L'ancien Premier ministre a balayé les critiques sur son isolement et son manque de moyens. Le boson de Higgs est en passe d'être démasqué. Les physiciens du CERN de Genève pensent aujourd'hui avoir cerné l'endroit où se cache cet élément manquant du puzzle des particules élémentaires qui pourrait détenir la clé des origines de l'univers. Cette particule fait l'objet d'une traque depuis des mois dans l'accélérateur en fait de particules enfouies près de Genève, sous la frontière franco-suisse. Il est encore trop tôt, disent les physiciens, pour tirer des conclusions définitives, mais les mois qui viennent vont être, disent-ils, très excitants. L'aspartame ne fait visiblement plus recette. Seulement 1 Français sur 5 consomme au moins une fois par semaine un produit alimentaire contenant de l'aspartame. C'est ce que révèle aujourd'hui une enquête du Crédoc. La consommation d'aspartame est actuellement source d'inquiétude en raison des conséquences possibles sur la santé. L'Autorité européenne de sécurité des aliments doit rendre un nouveau rapport l'an prochain. 1000 euros pour celui qui retrouve l'empoisonneur de Noël à Berlin. C'est l'offre que fait le responsable d'un grand marché de Noël dans la capitale allemande aujourd'hui. L'empoisonneur déguisé en Père Noël a déjà intoxiqué ces derniers jours une dizaine de personnes en leur proposant du schnaps frelaté. Vous écoutez France Inter 16h03.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet pour le jeu des 1000 euros. Je vous attends nombreux pour des sélections et des enregistrements en public dans le Puy-de-Dôme aujourd'hui mardi à Saint-Germain-l'Herme à 19h et demain en Haute-Loire à Saint-Maurice-de-Lignon à 18h30. À très bientôt.
France Inter. La différence.
Et c'est à vous Frédéric Lodéon. Bonjour.
Bonjour, bonjour Laetitia. Carrefour de l'Odéon.
Bonjour à tous. On peut être un compositeur de premier plan, un théoricien respecté, avoir été le professeur de Beethoven, et écrire pour un instrument qui n'est pas très onéreux, parce qu'on dit toujours que pour jouer de la musique, il faut des instruments, que c'est cher. Ben non, la guimbarde, vous connaissez ça. Enfin, en tout cas, les enfants connaissent ça. Un petit outil de métal qu'on tient dans la bouche, et puis on fait vibrer la languette avec le doigt. Et avec la bouche, on peut faire toutes sortes, évidemment, d'effets, parce que ça sert de caisse de résonance, mais on peut aussi, avec les lèvres, les joues, la langue, la glotte et les cordes vocales, faire sortir différents sons pour donner presque une gamme juste, ça arrive même quand je joue tout à fait juste, il y a des virtuoses de la guimbarde, il y a des guimbardes françaises, allemandes, de Nouvelle-Guinée, enfin bon, eh ben, une petite délicatesse si j'ose dire, en tout cas une chose un peu originale, concerto pour guimbarde et orchestre de Johann Georg Albrecht Berger, et on va entendre une partie du final, c'est écrit avec une orthographe un peu européenne déjà, tempo di menuet. Le final en tempo de menuet de ce concerto incroyable pour guimbarde et orchestre, vraiment l'alliance d'un instrument très populaire et puis d'un orchestre classique. L'auteur c'était Johann Georg Albrecht Berger et le soliste à la guimbarde Albin Paulus, et qui joue un instrument moderne de, on va dire quand même son nom, Josef Joffen, composé j'ai envie de dire, mais enfin construit, parce que c'est vraiment quelquefois des formes très différentes, chacun fait la guimbarde à sa façon, entre 2003 et 2007. On a déjà des doutes, même si c'est dans les années 2000. Et sur l'authenticité, en tout cas sur l'âge précis de l'instrument, peu importe. En tout cas, on a entendu aussi avec notre virtuose, Albin Paulus, l'ensemble baroque de Limoges. Et sur ce disque, il y a d'autres œuvres d'Albrecht Berger, bien sûr, notamment des partitas pour viol, des sonates, enfin des œuvres plus habituelles. Bah, c'est un joli cadeau de Noël, pourquoi pas. En tout cas, le premier morceau, le premier concerto, il est rigolo comme tout. Et on peut aussi offrir et s'acheter soi-même des ouvertures ou des suites, on dit ça aussi. Ouverture de Jean-Sébastien Bach pour orchestre, par l'orchestre baroque de Freiburg. Alors, c'est très bien, vraiment une belle interprétation. Et bah, par exemple, voici La Réjouissance tirée de la quatrième suite en ré majeur par ces dames et ces messieurs de l'orchestre baroque de Freiburg en Allemagne, parce qu'il y a un Fribourg, ça se dit
dit aussi comme ça en français, mais il y en a aussi en Suisse. Mais ça, c'est en Allemagne, et c'est une ville très écologique, d'ailleurs, Freiburg, en Allemagne, où tout est conçu pour le bonheur des gens, pour que la nature soit à l'aise aussi, enfin bon, à visiter, et puis surtout, le plus grand représentant de la ville, à mon sens, c'est cet orchestre tout à fait méritant. Réjouissance de Bach.
Thank you.